Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'écoute d'Africa numéro 1. Bienvenue dans le grand débat, le regard d'Africa numéro 1 sur les événements qui font l'actualité à travers le monde. Vous pouvez participer comme chaque jour à l'émission en nous appelant au 01 55 07 58 00 depuis la France. Si vous appelez d'ailleurs, notamment d'Afrique, des États-Unis, du Canada, de Haïti ou encore des Antilles, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir en direct dans la shootbox d'Africa numéro 1. Et pour cela, connectez-vous sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat.
Le Grand Débat avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1, ça c'est ma radio.
Au sommaire de cette édition, tension sociale au Togo, retour sur la situation au Togo où le pouvoir semble en panne de réponse face aux revendications catégorielles. Dans ce contexte, on se demande toujours quelle sera l'issue du conflit politique consécutif à la dernière élection présidentielle de 2010. Un conflit qui se prolonge dans l'indifférence de la communauté internationale et des médias internationaux. Dans cette édition également, nous irons en Tunisie, où se poursuit la procédure judiciaire à l'encontre de l'ancien président, l'ancien dirigeant Ben Ali, avec cette question: l'Arabie Saoudite acceptera-t-elle d'extrader les époux Ben Ali à la demande des autorités tunisiennes? Nous irons également tout à l'heure au Sénégal, où la tension sociale devient de plus en plus forte. Et la communauté internationale commence à s'alarmer, en tout cas, par rapport à cette situation sénégalaise. Nous irons tout à l'heure donc à Dakar pour prendre des nouvelles de ce pays. Pour m'accompagner tout au long de l'émission, Doussi Saïssi, journaliste, et Jean-Claude Chikaya, sociologue, consultant et agitateur d'idées. L'émission est réalisée, comme chaque jour, par Jérôme Didier Giliberto.
Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.
Premier sujet de cette édition, donc, tension sociale et répression au Togo. Le pouvoir n'est pas parvenu à faire baisser la tension chez les étudiants. Le mouvement de revendication s'est même intensifié avec, depuis l'arrestation samedi dernier d'un étudiant à Pékou Eddy, accusé d'avoir organisé une manifestation illégale pour exiger, entre autres, le départ du président de l'université de Lomé. Fermeture du pouvoir à toute forme de concertation, répression des marches de l'opposition, relents de pouvoir militaire et autoritaire. Au Togo, il semble que la démocratie en est encore au stade du projet. Nous en parlons avec nos invités, Monsieur Antoine Bawa, président de la Fédération internationale de l'ANC. L'ANC, c'est l'Alliance Nouvelle, l'Alliance pour le Changement, l'Alliance Nouvelle pour le Changement, c'est l'opposition. Monsieur Antoine Bawa, bonjour.
Bonjour, Francis.
Alliance Nationale pour le Changement. Monsieur Sénène Kodjo, conseiller à la Fédération internationale de l'ANC, Alliance Nationale pour le Changement. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, depuis Lomé, nous aurons tout à l'heure Fabie Kwasi, journaliste correspondante de la BBC à Lomé, qui est également militante des droits de l'homme. Par téléphone également, Yves Ekouyamaïso, économiste, coordinateur international de la plateforme CVU, c'est le Comité pour la vérité des urnes, Togo Diaspora. Il est consultant, directeur du groupe de réflexion et d'action qu'on connaît bien, Afrologie, Yves Ekouyamaïso a publié récemment Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique aux éditions Menebook. Je crois qu'il est au téléphone avec nous, Yves Ekouyamaïso. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci, c'est moi.
Alors, on commence avec vous. Alors, les mouvements sociaux qui ont été observés la semaine dernière dans les hôpitaux semblent un peu s'essouffler. Quelle réponse les autorités ont apporté aux revendications des agents de la santé?
Alors, vous avez dit le mot s'essouffler. Je ne suis pas si sûr que cela. Mmh. Il semble simplement que les autorités ont pris quand même conscience que ces mouvements sociaux dans divers secteurs deviennent importants.
C'est ça.
Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal n'est pas non plus à négliger. Ce qui a fait que le pouvoir a choisi de les, disons, traiter séparément. Donc, pour ce qui est de la santé, il y a eu des réunions, bien sûr, avec le syndicat. Un certain nombre de choses ont été acceptées, notamment, par exemple, des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps, par exemple, bon, le branchement informatique, par exemple. Mais le problème de fond n'a pas été touché, et donc il me semble qu'il va falloir attendre une ou deux semaines pour savoir si d'abord la mise en œuvre de ces petits avancements, sur lesquels nous attendons d'ailleurs un communiqué officiel, des différents syndicats du secteur hospitalier soit clair, et que deuxièmement, le gouvernement tienne sa parole, puisque, comme on l'a toujours dit, on fait des annonces sur le futur et ce n'est pas tenu. Ça fait quand même 2 ans et demi que le dossier sur la santé. Alors pour les étudiants, vous l'avez dit déjà dans votre introduction, là carrément rien ne va du tout, puisque dès vendredi, il me semble qu'il y a déjà des nouvelles manifestations qui sont prévues et qui risquent de dépasser le côté universitaire, en sachant d'ailleurs que pour la première fois, c'est ce que je crois comprendre, il y a une certaine solidarité dans l'ensemble du corps universitaire, y compris la division factice entre le Nord et le Sud est en train de tomber complètement, puisque même les étudiants du Nord n'acceptent pas cela.
Parce qu'il y a une division, en tout cas il y a une...
Qui a toujours été la même, c'est-à-dire que quand on a trouvé soi-disant les têtes de pont, on essaie de les isoler, de les mettre en prison, de les empêcher d'étudier, comme de faire pour un des dirigeants qui ne peut plus étudier pendant 6 ans. Et généralement, on essaie de soudoyer une partie du territoire, notamment la région, soit du président lui-même ou de ses partenaires, notamment au Nord, dans telle ou telle région. Mais on ne peut plus dire ça, parce que même au Nord, il y a des divisions relativement importantes. Même l'université de la Macara, ce n'est pas au beau fixe. Mais bon, voilà, il y a des préférences. Et vous le voyez aussi au niveau des bourses ou des facilités qui sont données à telle ou telle partie des universités.
D'accord. On va écouter Fabi Kwasi depuis Lomé. Fabi Kwasi, je rappelle, journaliste correspondante de la BBC à Lomé et militante des droits de l'homme. Fabi Kwasi, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour Africa numéro 1.
Oui, alors depuis la semaine dernière, il semble que le mouvement des étudiants se soit intensifié, accentué en tout cas depuis l'arrestation donc de ce jeune homme, Apeku Eddy. En ce qui concerne les agents de santé, on en parlait un instant, le mouvement semble un peu se tasser en quelque sorte. Est-ce qu'il y a eu des réponses qui ont été apportées à ce mouvement?
Oui, d'abord pour les agents de la santé, beaucoup pensent qu'il y a un accord qui a été signé, que la tension a baissé. On peut avoir cette impression, mais le plus dur reste à faire, le pouvoir. Vous savez, champion en la matière, mais ne respecte jamais les accords qui sont signés. Le service au niveau du personnel de la santé, c'est pour cela d'ailleurs que le syndicat reste sur le qui-vive. Vous avez sans doute eu les échos de la déclaration du SINFOT, le syndicat du personnel hospitalier du Togo, qui est convaincu que ce n'est qu'un accord et c'est maintenant que la bataille même commence. Et la grande bombe qui risque peut-être un peu d'ébranler encore le pouvoir, surtout toujours dans le domaine de la santé, c'est ce cas des directeurs des hôpitaux qui sont en train de pousser également la sonnette d'alarme au niveau de l'audit à faire au niveau des centres hospitaliers, de la prise en charge et donc au niveau des infrastructures sanitaires qui sont carrément dans un état complètement délabré. Ils donnent quelques semaines seulement au gouvernement pour réagir. Et donc, on peut pas dire que le gouvernement est sorti de l'auberge côté santé. Pour ce qui concerne les étudiants, c'est toujours très très chaud sur le campus universitaire. Depuis hier, les étudiants essaient de se regrouper en assemblée générale. On envoie la gendarmerie à leur trousse et c'est toujours des grenades lacrymogènes et des courses-poursuites. On bastonne comme ce n'est pas permis. Rebelote encore ce matin, les étudiants avaient prévu une assemblée générale. Ils ont encore été dispersés à coup de grenades lacrymogènes et de bâtons. Une autre assemblée générale est prévue pour demain, mercredi, avec sans doute le même scénario. Donc, ce qui est très, très, très inquiétant sur le cas des étudiants, c'est qu'on ne comprend pas comment on peut empêcher les étudiants de se réunir sur le campus universitaire, qui est quand même leur lieu de prédilection. Où vont-ils se réunir? Ce qui fait que les étudiants sont obligés de se retrouver dans la rue. Déjà, pour la conférence de presse, ils sont obligés de le faire, dans des centres en ville. Et donc, c'est pour cela même qu'ils appellent à une gigantesque marche le vendredi prochain. Avec pour point de chute la présidence de la République. Donc, vous savez, les autorités togolaises claironnent sur tous les toits que c'est la réconciliation, mais vous savez également que le directeur, le président du campus universitaire, est le premier rapporteur de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, et c'est lui qui signe les radiations des étudiants sur le campus, c'est lui qui permet qu'on bastonne les étudiants sur le campus universitaire. Dire que c'est carrément le jour et la nuit entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain. On ne sait pas aujourd'hui ce qui empêche les autorités universitaires gouvernementales à rentrer en discussion franche avec le MET ou encore le litho les étudiants, les associations étudiantines, qui sont aujourd'hui crédibles aux yeux de l'opinion, et on envoie à chaque fois gendarmerie et avec tout l'arsenal que vous imaginez. C'est vous dire qu'ici, la tension est toujours tendue, personne ne croit plus à la sincérité du pouvoir en matière d'accord. Le dernier qui a été signé sur le plan politique, c'est le fameux APG, l'accord politique global, qui peine à être appliqué. Aujourd'hui, on n'en parle même plus, le pouvoir a relégué cet accord au calende grec. Et c'est maintenant Dimitris Olympio qui a exhibé, hein, ce n'est même pas l'accord qui est intervenu entre Dimitris Olympio le pouvoir, mais c'est Dimitris Olympio lui-même qui a exhibé comme un objet d'art. Donc le gouvernement signe toujours des accords, mais ne les respecte pas, ce qui fait que les gens sont assez nettement perplexes et assez prudents avec le pouvoir de Lomé quant aux accords.
Fabie, reste avec nous. Alors, Antoine Bawa, il semble même que sur le plan politique, les réponses sont plutôt faibles, hein, parce que en ce qui concerne le personnel hospitalier, par exemple, le pouvoir nommer un nouveau ministre, M. Charles Kondi Agba, qui est un vétérinaire, et, apparemment, bon, je veux dire que cette nomination n'a aucun effet sur les manifestations, sur les revendications. D'ailleurs, le personnel de santé au Togo qualifie ce ministre de vétérinaire, qu'il n'est même pas capable de soigner les bêtes au Togo. Je veux dire, vous voyez un peu l'ambiance, quoi. Il faut dire qu'il avait déjà occupé cette fonction il y a quelques années, en 99.
Hein. Merci beaucoup, Francis Laloupo, et merci à toute votre équipe de cette invitation qui nous honore. Je voudrais tout d'abord dire que je partage tout ce qui a été dit jusqu'à présent par Yves et par notre sœur du Togo.
Fabien Kouassi,
au Togo. Pour ce qui concerne la réponse politique à ce qui se passe actuellement au Togo, vous connaissez le Togo et le Togo n'est pas un état de droit. Mmh. On le proclame, mais on ne le dira pas, on ne le dira jamais assez. Vous savez, ce qui s'est passé par rapport aux étudiants, c'est très simple. Les étudiants voulaient simplement organiser une assemblée générale, une réunion. Mmh. Tout est parti de là. Les forces de l'ordre sont arrivées, gaz lacrymogène et tout le reste. Et puis, vous avez vu par la suite ce qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le problème togolais, c'est un problème d'état de droit. Et ce problème-là, il n'est pas réglé. On peut tourner en rond, on peut faire tout ce qu'on veut, toutes les gesticulations qu'on veut. Ce problème est central. Alors, évidemment, l'opposition politique, démocratique, elle fait tout ce qu'elle peut depuis plus d'un an, depuis mars 2010. Le Front National, le Front Républicain d'alternance pour l'alternance et le changement, FRAC, n'a pas cessé d'alerter, n'a pas cessé de tirer la sonnette d'alarme, n'a pas cessé de manifester. Mais vous savez comment ça se passe au Togo. Mmh. C'est très simple. Ou on interdit la manifestation, on prend des lois liberticides, ou alors on poursuit, c'est une course-poursuite entre des gens qui sont forts, qui sont armés, et puis les autres qui n'ont rien. Ou alors, et ça c'est vraiment ça qui est déplorable, aller déversé dans des maisons des gaz lacrymogènes.
Oui.
Hein? Ça s'est passé chez...
Dans
le domicile de Jean-Pierre Fabre. C'est quoi cette histoire?
Jean-Pierre Fabre qui est le président donc de l'ANC. Hein?
Exactement. Et puis aller encercler sa maison pour qu'il ne puisse pas bouger, sortir de la maison. C'est quoi cette histoire? Vous voyez? Bon, donc c'est tout ça qui rend très très difficile.
Mais quand on vous entend finalement, c'est-à-dire que quand la réponse d'un État est essentiellement une réponse répressive, voire même militaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vous dites que le Togo n'est pas un état de droit, est-ce que le Togo est toujours gouverné, régi par un gouvernement, un régime militaire?
Bon.
Est-ce que ce régime est de nature militaire, oui ou non?
Alors, c'est comme dirais, sur le plan, disons, épistémologique.
Hein, oui, c'est voilà, la question. Oui.
Voilà, c'est difficile. Votre question ne peut pas avoir une réponse immédiate. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime s'appuie beaucoup sur la force. Et la réalité, elle est là. Mm-hmm. On le vit au quotidien, au Togo. Mm-hmm. En tout cas, les amis qui sont sur le terrain le vivent au quotidien. C'est pas du tout, un rêve, non, on ne rêve pas, c'est ça la réalité. Mmh, mmh. Voilà.
On peut donc parler, je dirais, d'une autocratie qui s'appuie sur la violence politique.
Exactement.
On poursuit le débat dans quelques instants, juste après cette pause. Restez avec nous.
Africa.
Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Merci d'écouter Africa numéro 1, suite du grand débat de l'actualité internationale sur la radio africaine. Avec nous dans ce studio, Antoine Bawa, président de la Fédération internationale de l'ANC. C'est l'Alliance nationale pour le changement au Togo. Sénel Kodjo, conseiller à la Fédération internationale de l'ANC. Et par téléphone, il reste avec nous, bien sûr, Yves Kouamaïso et Fabi Kouassi. Avant de revenir au dossier togolais, on va donc faire un insert, comme on dit. On va se rendre à Dakar pour prendre des nouvelles du Sénégal. Le Sénégal sous haute tension actuellement, 4 jours après les manifestations contre le projet constitutionnel du président Ouad, contre le projet de modification de la constitution. Dakar a été une nouvelle fois cette nuit le théâtre d'émeutes. Bâtiments publics incendiés, saccagés, les jeunes ont exprimé leur ras-le-bol face aux multiples délestages qui frappent la capitale sénégalaise. En tout cas, c'était le motif principal de ces mouvements d'humeur et de ces émeutes. Nous en parlons depuis Dakar au téléphone. Nous sommes avec Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle de 2012. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci. Merci beaucoup. Alors, on a appris juste avant de démarrer cette émission que l'opposition donc s'est réunie ce soir à 18h à Dakar. Vous le confirmez?
Absolument. C'est en fait à 17h de Dakar, oui.
Et pourquoi faire?
C'est d'abord pour faire le point de la situation et ensuite et surtout faire un point de presse assez systématique sur l'état actuel, la situation actuelle du pays.
Mmh. Alors, ces émeutes interviennent donc 4 jours après celles qui ont amené le président Ouad à retirer son projet de modification de la Constitution. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est en train d'entrer comme ça dans une zone de tension durable?
Malheureusement, il semble, oui, que c'est un peu la situation actuelle du pays. Mmh. Vous avez utilisé une belle expression que le pays était sous haute tension. Et effectivement, c'est essentiellement, là actuellement en tout cas, les émeutes sont liées à des questions d'électricité. Mmh. Vous savez que le pays vit sous les affres des délestages depuis plus de 2 ans.
C'est ça.
Et là, la situation s'aggrave, d'autant plus que la frustration est immense de voir que les autorités, en particulier le président de la République, ne semblent toujours pas comprendre que les Sénégalais ont d'autres urgences que des manipulations de la Constitution, problématique de succession, c'est cela sa priorité. Mmh. Mais la priorité du peuple sénégalais, c'est la demande sociale. Mmh. Le peuple ne comprend pas qu'on ne s'occupe toujours pas de l'essentiel, l'électricité, les inondations dans les banlieues, le manque d'emploi et de perspectives pour les jeunes, la situation du monde rural. Et le président, lui, a d'autres priorités et c'est malheureux. C'est un immense malentendu entre lui et son peuple.
Bien sûr. Alors, est-ce que ce projet de modification de la Constitution a été vécu un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce que ce projet a libéré les frustrations, finalement?
C'est absolument ce qu'il faut penser de la situation. Vous savez, il faut redouter les peuples qu'on dit très calmes, très passifs, qu'on prétend être des peuples qui encaissent éternellement. Le jour où ces peuples-là se lèvent, souvent, il est difficile de les arrêter. Le mouvement la grave crise du 23 juin, avec la prise d'assaut de l'Assemblée nationale par le mouvement des forces vives, les jeunes en particulier, surtout les jeunes de Yanamar et les jeunes de tous les mouvements politiques, y compris le mien, ces jeunes ont fait un excellent travail à côté des leaders politiques, des femmes, des mobilisations dans tous les départements, les régions du Sénégal. Le président Ouad a vécu une journée terrible en se rendant compte que contrairement à ce qu'il disait, que personne ne peut sortir les Sénégalais contre lui, et contrairement aussi à ce qu'il disait, que si quelqu'un peut sortir les Sénégalais pour demander mon départ, je vais le faire immédiatement, ben les Sénégalais, on ne les a pas en fait sortis, ils sont sortis, parce qu'ils avaient besoin de sortir. Il ne faut pas d'aide de récupération politique particulière, c'est le peuple qui s'est dressé, mais malheureusement, son entourage continue à lui dire que c'était un petit groupe manipulé par l'opposition. Comme on fait d'habitude en Afrique, on se cache derrière son petit doigt et c'est malheureux.
Oui.
Et le président doit sortir de sa torpeur et comprendre que la clameur vient du peuple. Et que s'il engage le bras de fer avec son peuple, il n'y a que lui qui peut perdre. Parce qu'il n'y a aucun dirigeant au monde qui peut réussir un bras de fer contre son peuple.
Quand vous parlez de bras de fer, justement, selon les médias sénégalais, le président Ouad aurait déclaré il y a quelques heures, je le cite, il est facile de brûler des pneus par-ci, jeter des pierres par-là. Il est aussi possible de leur apporter la réplique Et il ajoute, tout le monde connaît les domiciles des leaders de l'opposition, les écoles que fréquentent leurs fils à l'étranger et là où ils habitent. On peut bien rendre les coups et mettre le feu à leur domicile. Fin de citation. C'est ça, ce sont quand même des propos qui sont, qui prédisposent un pays à l'affrontement.
Mais vous savez, c'est des propos tragiques. Tragiques venant d'un homme comme le président Abdoulaye Wade, que vous, moi, beaucoup d'Africains, on a respecté dans le passé pour sa contribution au combat démocratique et contre la tyrannie, contre l'arbitraire dans nos pays. Mmh. Que ce président-là, en fin de règne aujourd'hui, au lieu de choisir la sortie par la porte honorable, une sortie honorable, choisit de se battre contre son peuple pour imposer son fils, parce que tous les malheurs au fond de ce président, c'est qu'il ne comprend toujours pas pourquoi les Sénégalais lui disent nous ne voulons pas de succession dynastique dans notre pays, nous voulons préserver nos institutions démocratiques et républicaines. Pourquoi son peuple se dresse contre lui, il n'arrive pas à comprendre. Et les propos que vous venez de dire, cités effectivement par la presse, sont des propos extrêmement dangereux venant d'un chef d'État.
Bien sûr.
Aujourd'hui, quand il dit, quand on le cite disant que c'est facile de brûler les maisons des dirigeants, vous aussi, on connaît vos maisons, on connaît. Il est en train de donner le top, n'est-ce pas, à des milices, à des nervis qui peuvent attaquer les dirigeants de l'opposition, brûler des maisons. Le Sénégal peut basculer dans une dérive terrible et je vous jure que la Cour pénale internationale aura son jeu, aura sa part dans cette affaire. La communauté internationale tout entière doit prendre immédiatement ses responsabilités parce que le peuple sénégalais a pris ses responsabilités. Les enfants sont dans la rue, les jeunes sont dans la rue. Les gens n'en veulent plus, n'en peuvent plus, demandent d'arrêter. Et le président leur répond que, écoutez, nous aussi nous savons brûler des maisons, brûler. Si c'est vraiment des propos confirmés venant de lui, il est temps qu'on arrête cela.
L'opposition demande donc depuis hier que M. Wade s'engage à ne pas se représenter à l'élection de l'année prochaine de 2012. Pour un troisième mandat, vous qui avez géré par le passé plusieurs conflits, plusieurs situations de crise, Cheikh Tidiane Gadio, est-ce que vous pensez que Maître Wade ira jusqu'au bout de son mandat?
Je pense que le président refuse d'entendre raison. Vous savez, encore une fois, le malentendu qu'il y a entre le président et son peuple, le président et sa classe politique, c'est que le débat sur la non-éligibilité de Wade pour un troisième mandat a été lancé par Wade lui-même. C'est Wade qui a déclaré en 2007 la constitution que j'ai donnée au Sénégal ne m'autorise pas à me présenter en 2012. Ce débat, il est clos. C'est lui qui l'avait dit. C'est filmé, c'est pas uniquement de la radio, parce que maintenant on peut dire qu'on a monté la voix de quelqu'un. C'est filmé, la cassette existe, la vidéo existe, c'est lui qui l'a dit. Alors, deux ans après avoir tout fait pour positionner son fils, n'est-ce pas, pour la succession, que les Sénégalais lui aient opposé une farouche résistance, et un nom cinglant le 22 mars 2009 lors des élections locales, et que par la suite ils sentent que le pays tout entier est absolument opposé à son projet, le président nous dit, bon écoutez, je suis maintenant candidat. Les gens disent, c'est pas possible. Il dit, ah, si, c'est possible, etc. Et puis il essaie de développer ses arguments. Tous les experts constitutionnels du Sénégal, quasiment à l'unanimité, ont dit que le président n'est pas éligible pour un troisième mandat. Alors maintenant les gens lui disent simplement, pour éviter ce qui nous est arrivé le 23 juin à l'Assemblée nationale, que le Conseil constitutionnel remette encore le pays à feu et à sang en prenant une décision autorisant la candidature du président, les gens lui disent, vous-même, et la hauteur, renoncez à votre candidature, que vous réconciliez tout le monde. Moi, je lui ai lancé plusieurs fois des appels, parce que vous savez qu'on a eu une très bonne relation de travail pendant 9 ans.
Bien sûr.
On a travaillé sur tous les théâtres de crise en Afrique, Madagascar, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Soudan, Tchad, etc.
Absolument.
On se connaît très bien de ce point de vue, et je sais que ce qu'il a voulu faire pour les autres pays, pour amener la paix et la stabilité, ben, il n'a qu'à commencer à le faire pour son propre pays. Nous prions pour que le président Wade et la même sortie que Senghor et Abdou Diouf, malheureusement, son compte bancaire avec l'histoire est complètement épuisé, et aujourd'hui va entrer dans les découvertes, et s'il continue comme ça, malheureusement, il n'aura pas la sortie que nous tous, tous les démocrates africains lui souhaitent.
Bien sûr. Dernière question, Cheikh Tidiane Gadio. Nous avons appris également, avant de commencer cette émission tout à l'heure, c'est une information donc qui est rapportée par le site d'informationafrique.com, qui cite une source bien informée, et qui rapporte que Karim Wade, donc le fils du président sénégalais, aurait téléphoné tard dans la nuit de lundi à mardi à un proche de Nicolas Sarkozy afin de réclamer une intervention de l'armée française. Et une demande qui a été donc plutôt accueillie par le fait de le recevoir, l'Élysée indiquant donc que les Français n'étaient pas, les ressortissants français n'étaient pas en danger actuellement au Sénégal. Est-ce que vous êtes au courant de cette information?
Je ne suis pas au courant, mais je ne suis pas du tout surpris. Il y a un immense, encore une fois, malentendu, d'abord avec le père, mais aujourd'hui avec le fils. Les Sénégalais réclament que ce monsieur sorte des affaires de notre État. Laisse notre État tranquille. Il n'est pas une institution. Si vous lisez la constitution du Sénégal, il n'y a aucun chapitre consacré à l'institution du fils du président de la République. De ce point de vue, il n'existe pas. Et il n'a pas à politique que ce soit pour demander une intervention dans notre pays. C'est ça aussi le gros malentendu sur lequel nous nous sommes prononcés plusieurs fois. Nous ne lui demandons pas de sortir des affaires du pays parce que c'est un Sénégalais à 100%. Il peut rester dans le pays, il peut ouvrir ses business, faire ce qu'il veut, mais qu'il sorte sa main des affaires de notre État. Parce que vous savez, quand une famille gère un État, quand on met la famille et l'État, on arrive à une privatisation de l'État et on arrive à des incongruités de ce genre, du genre que vous venez de citer. Et c'est une catastrophe. Mais je vous dis, le destin du Sénégal ne se réglera ni à Paris, ni à Washington. Il se réglera ici au Sénégal avec un peuple debout depuis plus de 2 siècles, 3 siècles, qui a affronté tout le monde, qui a affronté tous ceux qui sont venus de l'extérieur. Ce peuple-là est aujourd'hui plus que debout. On l'a poussé à bout. Et on le verra sur le théâtre des opérations se battre avec dignité pour sortir notre pays de cette situation. Et c'est une catastrophe que de demander à l'étranger de venir secourir un régime qui est aujourd'hui terminé, historiquement parlant périmé. Et plus grave maintenant, c'est qu'ils donnent l'impression qu'ils sont effectivement soutenus par des amis français. Moi, j'ai lancé plusieurs fois des appels à la France. La France a toujours eu de très bonnes relations avec le Sénégal, avec les pays africains francophones, et le reste du continent. La France n'a pas le droit d'envoyer un signal ambigu. S'ils sont contre le projet de Ouad, le projet de démolition dynastique, s'ils sont contre son projet de démantèlement des institutions de la République du Sénégal, s'ils sont contre son coup d'État constitutionnel avec cette histoire de président, vice-président qui nous a sorti du chapeau brusquement, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils le lui disent clairement, de sorte que son fils ne pense pas qu'à 2h du matin, il peut appeler et demander une intervention. C'est incroyable, c'est inimaginable, et c'est pas digne du Sénégal.
Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères et candidat à l'élection présidentielle de 2012. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci infiniment.
Merci, Francis, et bonne continuation.
Merci à vous. Au revoir.
Le Grand Débat avec Francis Laloupo.
Suite du grand débat, après le Sénégal, retour donc au Togo, autre zone de tension évidemment. Donc on reprend le dossier du Togo, alors on va écouter les commentaires des débatteurs polémistes. On commence par vous, mon cher Jean-Claude Tchikaya.
Qu'on allie ce qu'on vient d'entendre sur le Sénégal, ce qui a déjà été dit sur le Togo, ce qu'on va dire tout à l'heure sur la Tunisie, ici en France, une expression a été reprise un petit peu à l'international en parlant d'un printemps arabe, c'est faire fi un petit peu de tout ce que l'Afrique a pu faire, que ça soit au nord ou en Afrique dite noire, comme si l'Afrique était dans une nuit hivernale et n'était pas donc prêt pour la démocratie. On peut dire, j'ai même entendu au journal de 13h sur France 2, Alain Gérard Slama de France Culture, une pointure, dire mais vous rendez compte, ils sont comme nous, en parlant des jeunes et des moins jeunes de Tunisie, ce qui veut tout dire, c'est-à-dire qu'il y avait pas, il voulait être bienveillant et avoir aucune hostilité, et je trouve extraordinaire cette époque, en tout cas ce qu'on voit et ce qu'on entend, cette marche inexorable vers la démocratie. On peut dire par exemple pour le Togo que la santé sociale et économique du pays est prise en compte par les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes justement, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ne vont pas faire une scission générationnelle, mais on voit bien que là, le Internet et autres permettent aux générations de se réunir. On voit bien que tous les pouvoirs autocratiques, totalitaires, autoritaires et autres sont à bout de souffle et malheureusement tombent dans le tragique. Ils y étaient déjà. Maintenant que ça soit ce qu'ils peuvent dire et surtout faire. Mais je fais une grande confiance et ça va paraître peut-être un peu incongru, mais je trouve cette époque fabuleuse et je pense que l'Afrique se relève, mais pas seulement à cause d'elle. L'Afrique est debout, mais elle a toujours été, et nous sommes pas seulement dans un printemps arabe, mais c'est l'année qui est lumineuse.
Une époque formidable selon vous, mon cher Jean-Claude. D'où ça ici?
Oui, à la suite de Jean-Claude, je dirais qu'effectivement c'est la démocratie qui est l'enjeu.
parce que la démocratie permet la bonne gouvernance et permet au peuple de mieux contrôler leurs dirigeants. Quand on voit bien ce qui se passe au Togo et au Sénégal, on voit bien qu'à la base, il y a des revendications sociales. C'est d'abord des étudiants qui luttent pour leur survie, pour des conditions meilleures. C'est des médecins, du personnel soignant qui luttent pour avoir de meilleures conditions de travail au Sénégal. On lutte pour avoir de l'électricité. Vous voyez bien qu'à la base, c'est des revendications, je dirais, terre à terre, qui poussent les gens à descendre dans la rue. Et pourquoi, justement, les dirigeants qui sont élus, les gouvernants, n'arrivent pas à satisfaire ces revendications? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Et pour avoir la bonne gouvernance, il faut la démocratie. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo.
Tension sociale et répression au Togo, suite du dossier dans quelques instants après cette pause.
Africa.
Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Suite du grand débat de l'actualité sur la radio africaine, dossier togolais, tensions sociales et répression au Togo. Nous en parlons avec Antoine Bawa, président de la Fédération internationale de l'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement au Togo. Avec Sinène Kodjo, conseiller de la Fédération internationale de l'ANC. Et par téléphone, Fabi Kwasi, journaliste correspondante de la BBC à Lomé et militante des droits de l'homme. Au téléphone également, mais depuis Vienne, Yves Ekwe Amaïso, économiste directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie. Et alors, Céline Kodo, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Samedi dernier, la marche organisée par l'opposition, hein, le FRAC, c'est le Front Républicain pour l'Alternance et le Changement. Cette marche s'est plutôt bien déroulée, contrairement aux manifestations antérieures de jeudi, par exemple, qui, elles, avaient été fortement réprimées. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution quand même de la réaction du pouvoir? Il s'agit de moins réprimer? Est-ce que c'est le début de la possibilité d'un dialogue?
Non, je ne crois pas que le pouvoir... est mis de l'eau dans son vin. Ils restent dans leur logique de répression. Ils ont l'habileté de souffler le chaud et le froid après avoir assailli le président de l'ANC, monsieur Jean-Pierre Fabre, à son domicile en lançant vertement des grenades lacrymogènes.
Ça s'est passé quand, ça, exactement?
Ça s'est passé jeudi dernier.
D'accord.
En lançant des bombes lacrymogènes dans son salon. La manifestation d'après, il laisse faire, c'est juste pour mesurer la température des réactions de la communauté internationale. Mmh. Et comme cette communauté internationale est souvent très complaisante à l'endroit de ce régime militaro-civil du Togo, eh ben, vous verrez que les manifestations à venir seront tout aussi réprimées avec violence.
Mmh. Alors, Antoine Bawa, l'élection de 2010 avait été considérée comme un test historique à l'époque au Togo, hein, après les violences électorales qu'on a connues dans les années antérieures, notamment en 2005, hein, où l'ONU avait quand même indiqué à l'époque 500 personnes, hein, qui avaient été tuées donc en 2005, au bas mot, si on peut dire. Hein. Est-ce que on se demande toujours quelle sera l'issue du conflit, parce que depuis un an, l'ANC, enfin l'opposition manifeste régulièrement, l'opposition continue à rejeter les résultats de ces élections, il y a un contentieux électoral qui dure. Quelle pourrait être l'issue de ce conflit, politique? Est-ce qu'il y a un dialogue possible avec le pouvoir, et un dialogue pour quoi faire et pourquoi dire?
Alors, merci beaucoup Francis. Le problème du dialogue au Togo ne se pose pas seulement depuis 2010, depuis les élections de 2010.
Ça fait 15 ans qu'on négocie au Togo. Hein.
Exactement. Oui. Exactement. Et il y a eu, au bas mot, une vingtaine d'accords qui ont été signés entre l'opposition démocratique et le pouvoir.
Et rien ne change.
Alors, c'est la raison pour laquelle l'opposition que nous représentons avec l'ANC et le FRAC pose des préalables. Si on dialogue pour que rien n'en sorte, ça ne sert à rien. Il faut véritablement des engagements très forts de la part du pouvoir. Hein, c'est le pouvoir qui a le pouvoir. Bon, des engagements très forts. Et non pas seulement envoyer des...
Mais quel type d'engagement vous entendez du pouvoir? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mais, parce que bon, faut dire que le face-à-face entre l'opposition et le pouvoir au Togo, parfois, bon, pose quand même quelques questions. On se pose la question même sur l'efficacité, je veux dire, des moyens d'action de l'opposition. Hein. On a vu, par exemple, des rendez-vous manqués, où, en 2005, par exemple, où les jeunes Togolais étaient sortis dans la rue pour contester des résultats électoraux. On n'a pas vu l'opposition derrière ces jeunes-là. L'opposition n'a pas, de cette manière, encadré ni même revendiqué les manifestations de rue qui ont jeté ces jeunes, je veux dire, aux forces de l'ordre, qui les ont matraqués, qui les ont tués parfois. Et beaucoup sont partis en exil. ville et jamais l'opposition n'a encadré ces manifestations. On se demande finalement quelle est la stratégie gagnante de l'opposition togolaise.
Alors, évidemment, on ne peut pas répondre par une phrase à tout ce que vous venez de dire.
C'était à la fois, c'est vrai, une question, des questions et un commentaire, je le reconnais.
Exactement, exactement. En fait, l'opposition togolaise a, à mon avis, un problème aujourd'hui, c'est un problème d'organisation, de structuration. Mmh. Vous savez, l'ANC a été créée au mois d'octobre, le 10 octobre 2010. Mmh. Et donc, l'ANC a 8 mois, c'est pas plus. Mmh. Bon, alors, pour une opposition qui véritablement veut changer les choses, mmh. et pourquoi est-ce que l'opposition ANC et le FRAC veulent changer les choses? Mais c'est parce que c'est le peuple togolais qui veut ce changement-là. Qui veut changer les choses. Donc, ce n'est pas une volonté de quelques personnes qui sont là, qui rêvent. Non, c'est véritablement un problème de fond posé par le peuple togolais lui-même. Alors, donc, tant que...
Mais l'ANC ne serait jamais né si, par exemple, il n'y avait pas eu, je veux dire, ce retournement spectaculaire, cette espèce de reniement, de trahison absolue historique de Gilkis Olympio.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça qu'il faut reconstruire une opposition, une véritable opposition crédible,
oui.
qui peut aller effectivement oui. vers comment dirais-je, les objectifs.
Pendant ce temps, ce régime confirme sa longévité, Sénène Kodjo.
Oui, malheureusement, oui, nous avons besoin de restructuration et la trahison de l'UFC à déstructurer
l'union des forces de changement,
hein, l'union des forces de changement à déstructurer toutes les alliances existantes. Mmh. Et donc maintenant, il faut que l'ANC et à travers lui le FRAC se repositionne sur l'échiquier politique national. Mais toujours est-il que les revendications restent fondamentales au-delà au-delà de la confrontation entre le pouvoir et le FRAC. C'est la mise en place de l'état de droit et des instruments de l'état de droit qu'il est question. On le retrouve pêle-mêle dans les manifestations sociales, que ce soit celui des personnels de santé ou des étudiants, ou encore même une manifestation dont on ne parle pas, les populations originaires de la région de Haoto-Evogan. C'est la région où on extrait le phosphate togolais. Le Togo est le deuxième producteur de phosphate par la qualité de son phosphate. Et ce phosphate est extrait dans des conditions déplorables qui laissent les régions dévastées. C'est une véritable catastrophe écologique et même une catastrophe sanitaire parce que les populations riveraines de ces exploitations souffrent de nombreuses maladies liées aux produits chimiques utilisés dans l'extraction. Et donc, récemment, ces populations ont tenté de manifester. Elles ont tout aussi été sérieusement réprimées par les forces de l'ordre. Donc, globalement, c'est d'état de droit qu'il s'agit au Togo. Dès lors que nos institutions marchent à l'envers, rien ne peut aller.
Monsieur Saïssi.
Oui, à propos de Gilkis Olympio. Bon, moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à son alliance avec le RPT. Il est vrai, le RPT, c'est un parti qui n'a pas son équivalence en Afrique de l'Ouest parce que depuis 40 ans, c'est un parti qui est resté. Malgré tous les bouleversements dans les pays, c'est comme un chat qui saute et qui se retrouve tout sur ses deux pieds et avec une certaine manière de répression. Mais je crois que, moi, j'ai une certaine façon de voir le fait pour Gilkis Olympio de s'allier au pouvoir. A priori, ne veut pas dire forcément que c'est une trahison. On peut supposer que on peut obtenir des changements à travers la négociation aussi. C'est pas le fait de s'allier au pouvoir. Il y a, je crois, Aimé Césaire qui disait que le progrès ne se compte pas en nombre de vies sacrifiées, mais en nombre de vies sauvées. Si cette alliance pouvait permettre aux Togolais d'aller à la négociation, d'obtenir des élections crédibles, hein, d'avoir un certain... Là où j'attends, j'ai écrit sur le PCO exactement. Je crois que actuellement, Yadi Mofis, Faure Yassingbé, est dans son deuxième mandat. Et je crois qu'il serait bienséant qu'après deux mandats, il se retire du pouvoir.
Oui,
maintenant, si cette alliance, mais attendez.
Votre candidat m'étonne quand même.
Non, mais si cette alliance, non, parce que, non, vous savez, Francis, je sais qu'il y a cette démondiation qui porte tous les chefs d'État africains de vouloir modifier absolument les
conditions. Non, mais de ce qui s'agit, quand vous dites, par exemple, on peut négocier de l'intérieur et que, bon, par exemple, l'alliance de Olympio avec le RPT peut permettre des nouvelles élections libres, vous oubliez quand même que Guillaume Olympio s'est allié au RPT après des élections contestées et contestables.
Oui, mais déjà. Mais il faut voir, il faut pas rester dans le passé, il faut voir le futur.
Ah oui, ça,
et j'ai dit, et j'ai dit, et j'ai dit que là où je l'attends justement, c'est que par rapport aux prochaines élections, eh bien, si jamais Jade mon fils, eh bien, continue à vouloir modifier la constitution pour rester au pouvoir, eh bien, là, je comprendais évidemment que c'est une trahison. Donc, a priori, je ne peux pas dire que c'est une trahison.
Il faut juste préciser à Doucis que ça fait 40 ans que les positions congolaises misent sur l'avenir.
À ce que je sache, avant d'aller à une telle négociation, il faut avoir un cahier de charges au minimum. Il faut un accord. Il faut quelque chose. Qu'est-ce que le pouvoir donne à Monsieur Olympio en échange de son alliance?
Ah, c'est une bonne question.
Ah oui.
vous pouvez nous
merci,
dire.
Alors, Codio de la poser.
Nous avons cherché en vain. Oui. On ne l'a pas trouvé. Parce qu'il n'y a rien. C'est une coquille vide, cet accord. Et donc, c'est ce qui nous fait craindre que
il y a peut-être des accords invisibles. Hein,
des accords secrets. Ah ben, wait and see, mais je doute fort.
J'ai justement appris par un responsable du parti de Gilles Christel que justement, c'est d'arriver à limiter le nombre de mandats. Ça, c'est un point. Mais moi, je dis jusqu'à présent, j'ai dit mon fils est élu, il est dans son deuxième mandat. On n'est pas encore aux élections, mais si jamais ce point n'est pas respecté, alors là, moi, je sais que c'est de la canne, mais je le prends.
Mon cher polémiste Doucis a un rapport au temps extraordinaire, parce que bon, il aura quand même fait 10 ans déjà au pouvoir, fait 40 ans que on projette tous les 5 ans, tous les 10 ans, des lendemains meilleurs pour le Togo. Il y a une expression qui résume bien ça, le ciel peut attendre. Mmh. Est-ce que le ciel peut attendre indéfiniment pour les opposants togolais, en tout cas pour le peuple togolais? La question reste posée, en tout cas. Suite du grand débat, dans quelques instants, nous irons à Libreville pour écouter le journal qui sera présenté par Louis-Claude Mounzi-Okumba. Dans la deuxième partie, nous reprenons donc ce dossier togolais. Nous en parlerons avec nos invités, Yves Ekwe Amaïzo qui est au téléphone depuis Vienne, Fabi Kouassi depuis Lomé. Nous serons également à Tunis pour parler de la procédure judiciaire en cours à l'encontre de l'ancien dirigeant tunisien Ben Ali. Dans quelques instants, le journal de Libreville. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Africa.
Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Suite du grand débat sur la radio africaine, avec nous dans cette émission Antoine Bawa, président de la Fédération internationale de l'ANC, c'est l'Alliance nationale pour le changement au Togo, Sénène Kodjo, conseiller à la Fédération internationale de l'ANC, et avec nous au téléphone Fabi Kouassi, journaliste, correspondante de la BBC à Lomé, militante des droits de l'homme, et Yves Ekwe Amaïzo, économiste, directeur du groupe de réflexion et d'action Afrologie, à qui je m'adresse maintenant. Yves Ekwe Amaïzo, vous êtes avec nous donc, hein?
Oui, je suis là.
Alors, que signifie aujourd'hui un dialogue au Togo? Que signifie ce mot finalement? Que peut-on négocier aujourd'hui? Que peuvent négocier les acteurs politiques aujourd'hui au Togo?
Vous savez, je m'occupe aussi d'un collectif pour la vérité des urnes. Mmh. Et depuis les dernières élections qui n'ont pas du tout reflété la vérité des urnes au Togo, la sortie de crise, nous l'avons essayé de le mettre sur un papier en demandant que l'ensemble des acteurs concernés se l'approprient. Et à partir de là, essayent eux-mêmes d'en faire une mouture de leur point de vue avec leurs militants et se le soumettent mutuellement pour arriver à un consensus. Mmh. À ce jour, rien de cela n'a été fait. Il s'agit en fait d'une solution transitoire dans laquelle l'État togolais doit reconnaître malgré tout que ces élections ne se sont pas bien passées. C'est la base de tout dialogue d'ailleurs. Et la seconde, nous devons demander à la communauté internationale, la France en particulier, de cesser de toujours légitimer ce qui n'est pas acceptable sur le plan démocratique, notamment l'absence de vérité des urnes. Mmh. La deuxième chose qui passe par cela, et vous ne l'avez pas dit dans l'ensemble du débat, et je profite pour parler un peu du Sénégal en même temps,
allez-y,
c'est qu'il faut nécessairement revoir deux choses. Le problème économique, c'est-à-dire, et le problème militaire, d'ailleurs, les deux sont liés. Mmh.
Pourquoi militaire, quand je dis militaire au sens large, c'est-à-dire avec la police, la sécurité, qui en fait passe son temps à taper essentiellement sur la population la plus faible et la plus difficile à mobiliser pour ce qui est, ou la plus facile à éliminer.
D'accord.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on s'est aperçu qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, vous avez fait les cinquantenaires, les militaires, quand ils soutenaient des régimes, même dans les cas de coup d'État, n'étaient pas gourmands. C'est-à-dire qu'ils ne demandaient pas grand-chose à celui qui dirige le pays. Aujourd'hui, c'est très différent. Ces militaires ou ces agents, voire des petits grades, des capitaines, des commandants et autres, demandent beaucoup de choses. Mmh. Et souvent, le gouvernement ne peut souvent d'ailleurs pas satisfaire, d'où tout le système de corruption que vous connaissez avec la drogue, etc. Mmh. Donc, ce lien-là, et vous rajoutez à cela des réseaux ésotériques, pour que l'ensemble de ce système se tienne tous par la barbichette. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire sortir, et là je reviens sur votre sujet, des propositions sur lesquelles on peut trouver un début de solution, si ce n'est la solution de la pensée unique qui vient toujours du gouvernement. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dialogue, ou ce que j'appelle le monologue. Donc vous ne pouvez pas parler de transition. Ça, c'est très très important. Alors, le volet économique est important, parce que le volet économique fait que on a des liens avec l'étranger. Et là, c'est le groupe d'influence qui parle. C'est-à-dire que ces liens avec l'étranger, la France entre autres, mais l'ensemble de la France-Afrique, le patronat français entre autres, notamment des grandes sociétés, je ne parle pas des PME, pas des entreprises petites, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Il s'agit de gens qui défendent des intérêts parce qu'ils ne sont plus compétitifs. On le voit sur le plan économique en faisant des calculs, qu'ils n'arrivent plus à faire de l'argent. On le voit que quand ils offrent, ils font des offres, bah, ils sont battus, les Chinois, les pays émergents en général. Et troisième chose, il faut dire qu'aussi, le pays lui-même, le Togo, a un certain nombre de gens qui commencent à se débrouiller localement, notamment dans la diaspora aussi, et qui peuvent aussi prendre ces contrats-là. Donc du coup, pour pouvoir bloquer cela, on est obligé de passer par le lien politique, et vous savez qu'on est en année électorale en France, et que par définition, une bonne partie de l'argent qui peut partir du sol africain vers la France, que ce soit par le franc CFA ou pas, écoutez, va servir quelque part à ces élections-là. Quand vous mettez tout ceci ensemble, vous voyez maintenant comment ça peut être difficile d'arriver à un dialogue sincère que demande l'ensemble des oppositions. Un tout dernier point rapidement.
Allez-y, rapidement.
Ces oppositions, vous avez un représentant à côté de vous, mais les médias mettent
deux représentants. Pour le moment,
mais la France, pour prendre d'elle-même, la communauté internationale, ne les reconnaissent pas à leur valeur. Parce qu'au fond, si vous regardez votre cinquantenaire, c'est qu'on n'a jamais donné la voix à ces oppositions. On ne les a jamais vraiment soutenues dans leur lutte. Après tout, il y a quelqu'un qui fait une manifestation tous les samedis, pour ne pas dire aussi dans la semaine, depuis un an, au Togo. Et je ne vois pas où est-ce que les parlementaires français, pour ne prendre que le régime français lui-même, s'est levé pour aller vous discuter avec cela. Et c'est ce même régime qui va dire qu'il faut faire le contraire en Libye, en Côte d'Ivoire ou en Tunisie.
Oui,
pourtant, c'est ce même régime qui avait dit aussi en Tunisie tout de suite, écoutez, on va envoyer un peu plus de sécurité, un peu plus d'armes, avant que le peuple tunisien ait choisi de faire autre chose.
Pourtant, mon cher Yves Ekwe, il faut quand même arriver aussi au Togo, comme ailleurs, à construire un état de droit et à restaurer les règles ordinaires de la compétition électorale. Je veux dire, par exemple, on pas imaginé il y a quelques mois encore que le régime tunisien pouvait donc tomber, hein, comme on a pu le voir. On pensait que le régime de Ben Ali était indéboulonnable, et pourtant cela s'est produit aussi en Tunisie.
Il y a des conditions objectives pour faire tomber un régime. Il n'y a aucun problème sur ce que vous avez dit au départ, qui a été dit d'ailleurs par les représentants de l'opposition qui sont à côté de vous. Il faut bien sûr la démocratie, il faut bien sûr la vérité des urnes, la vérité des comptes. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est un rapport de force. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, si vous regardez bien? Bien sûr que la population, celle qui avait le ras-le-bol, qui en avait marre, des gens qui se sont brûlés, étaient là depuis longtemps d'ailleurs manifestés. Et la démocratie et la liberté d'expression a été bafouée. Mais il y a eu un retour très important de la diaspora, dans tous les secteurs. D'ailleurs, les luttes togolaises avec le côté syndical, que ce soit pour la santé ou d'autres, c'est aussi que le niveau intellectuel est beaucoup plus élevé. Donc ces gens n'acceptent pas. Pourquoi on demande des liens internet dans un hôpital et que des gens vous demandent « Mais pourquoi vous avez besoin d'un lien internet dans un hôpital ?» Quel est l'hôpital français qui n'a pas d'un lien d'internet aujourd'hui? Posons-nous cette question. Pourquoi le Togo ferme le téléphone chaque fois qu'il y a une crise qu'on n'arrive même pas à appeler dès qu'on sort de France? Pourquoi? Voilà, ce sont des problèmes de fond sur lesquels on voit bien qu'il y a une combinaison internationale.
Il veut quoi?
Oui.
Alors, juste une question, après on revient en studio ici. Vous en appelez, vous, à une coordination des mouvements sociaux pour, dites-vous, intensifier le rapport de force justement avec le pouvoir? Comment?
Mais bien sûr, attendez, il y a deux choses. Il faut d'abord que le concept soit clair. On ne gagne pas des régimes de 45 ans, 50 ans, qui sont soutenus par des systèmes militaires. Vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est comme régime? C'est un régime civilo-militaire, faut dire la vérité des choses.
C'est ça.
Ce sont des militaires qui ont mis en place l'actuel monsieur qui dit qu'il est le président de la République. Mmh. Et donc ces militaires n'ont aucun intérêt qu'ils partent tant qu'ils n'ont pas trouvé un remplaçant. Voilà pourquoi d'ailleurs ce monsieur n'arrive pas à faire son parti politique. Mmh. Parce que le jour où il le ferait, les gens changeraient d'avis vraisemblablement. Mmh. Donc c'est très important. La deuxième chose, pourquoi la coordination? Parce que c'est la coordination qui a fait tomber en Tunisie ou en Égypte ou ailleurs. Bien sûr, les réseaux sociaux ont soutenu, mais c'est d'abord une coordination. Une coordination d'un certain nombre de gens, de secteurs sociaux, une demande sociale très importante, qui d'ailleurs a été souvent niée par le côté international, de temps en temps aussi par les nationaux, notamment dans l'opposition, une certaine opposition d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes représentées, mais il faudrait revenir à cela, parce que c'est quand on va s'apercevoir dans la coordination, ne serait-ce que les réunions, qu'on va voir que le chemin est le même. Regardez le Sénégal, ce qu'a dit le ministre Gadio, ils se réunissent aujourd'hui à 17h heure de Sénégal, pour faire quoi? Pour faire le point. Pourtant, ils sont plusieurs à être candidats aux élections, ça ne gêne absolument pas. Aujourd'hui, cette réunion-là reste difficile. Il y a des gens qui refusent d'aller à cette réunion. Il y a des gens qui sont venus jusqu'à Paris pour faire l'unité. Ils ne l'ont pas réussi à le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, l'ensemble de ces partis d'opposition, il n'y a pas fondamentalement de démocratie à l'intérieur. On ne choisit pas son équipe, ces gens, sur une base démocratique. Et donc, sur une base d'un programme.
Très bien, Yves Ekwa Mahizo, messieurs les opposants, vous entendez, Yves Ekwa Mahizo, hein, il y a une autocritique quand même, sévère, en tout cas exigeante à faire aussi au sein même de l'opposition togolaise. Fabi Kwasi nous a, elle n'est pas là, je crois, hein, pas encore. Alors, on va écouter un auditeur qui appelait depuis tout à l'heure, monsieur Pierre, bonjour.
Oui, bonsoir monsieur Francis.
Bon, nous vous écoutons, merci.
Et bonsoir à tous vos invités, notamment monsieur Mahizo. Et je lui remercie énormément pour ses propos. Parce que, monsieur Francis, l'Europe, la France, c'est la division qui conduit l'Afrique là où on est. Le système au Togo, c'est un système depuis 40 ans, 42 ans, il y a des réseaux, monsieur Francis. C'est des moments où vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous pensez qu'il n'est pas du APT, mais c'est quelqu'un du APT que vous avez à côté de vous. Donc c'est que ces réseaux-là, il faut savoir comment les aborder. Mais monsieur Amadou, il a dit à propos des hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus simple, monsieur Francis, pour que des hôpitaux aient un moyen de communication dans ce monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est illégitime dans cette affaire-là? Il a bien dit qu'il faut que les partis, enfin les étudiants et les médecins, il faut qu'il y ait une coalition, il faut que ça coordonne pour ne pas être comme ce qu'on a vu au Burkina. C'est ça qui a ramené ces 100 jeunes hommes de la mutinerie aujourd'hui en prison, parce que ça a été mal coordonné. Moi j'ai dit aujourd'hui, je suis de tout cœur avec ces gens-là, il est temps, il faut plus compter sur l'Occident, faut plus compter sur la France. Non, on a vu en Tunisie, on a vu en Égypte, monsieur Francis, je vais pas rester longtemps, mais j'ai dit à ces messieurs-là, il faut y aller et ne plus penser à l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique en a la marre. C'est pas parce qu'il ne manque. Monsieur Francis, qu'est-ce qui manque au Togo? Il manque rien du tout. Il manque rien. Le port du Togo est capable de faire tout ce qu'il y a au Togo. Mais simplement, il y a une mauvaise gouvernance. Donc, on voit que les jeunes Togolais sont comme ça. Si vous voyez l'université, c'est comme un parc à cochons. L'université du Togo. Et regardez l'ambassade des États-Unis à côté. C'est propre sur combien de hectares?
Bien sûr.
Non. Merci, monsieur Francis.
Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre. Restez avec nous. Fabi Kwasi est revenu. Fabi Kwasi, bon, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, on se posait la question de savoir aujourd'hui que signifie le terme dialogue au Togo, quoi. Que peuvent négocier encore aujourd'hui les acteurs politiques de l'opposition face au pouvoir togolais, puisque tous les dialogues qu'on a connus depuis 15 ans à peu près ont abouti à ce que vous savez, c'est-à-dire un statu quo.
Oui, tout à fait. Vous savez, dans le contexte actuel, c'est très difficile d'envisager un dialogue avec le pouvoir, surtout un dialogue franc, si le dialogue va se passer comme les autres se sont passés, où le RPT, le parti au pouvoir, se taille la part du lion et puis donne des strapontins aux autres partis. Je pense que avec cette formule-là, la base est déjà faussée. Et plus concrètement, vous savez, aujourd'hui, Fornia Singe n'a pas besoin d'ouvrir un dialogue pour pouvoir engager des réformes franches et sincères. Quand il a annoncé qu'il y aura un dialogue inclusif dans son discours du 31 décembre et tout le monde a les yeux qui brillent dans l'opposition. Ça fait rire la plupart des Togolais, puisque les gens savent que c'est une formule dont le pouvoir abuse et use juste pour gagner du temps. Oui. Aujourd'hui, la préoccupation fondamentale, c'est quoi? C'est la limitation du mandat, c'est le retour du scrutin à deux tours. Donc aujourd'hui, fondamentalement, on n'a pas besoin de cette classe de l'opposition pour pouvoir engager ces réformes-là. Oui. Et quand on parlait tantôt du cas Gilchrist Olympio, c'est une pure trahison. Celui qui n'y croit pas, il aura le temps de le croire. Il avait promis au lendemain de cette signature qu'après 6 mois, les réformes institutionnelles et constitutionnelles vont être engagées. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, il va falloir que les gens regardent dans le rétroviseur. Il y a au moins des centaines, pour ne pas dire des milliers de Togolais qui sont morts pour ce monsieur, pensant qu'il était justement le symbole. Et si on arrive aujourd'hui à la limitation du mandat, ce ne sera pas grâce à l'accord Gilchrist Olympio ou encore grâce à l'accord politique global. Ce sera sous la pression de la rue. Et moi, j'ai été quand même assez ravi de savoir que l'opposition à l'interne sait elle-même qu'elle est mal organisée, qu'elle est mal structurée. En plus de ces deux problèmes que les représentants de l'ANC ont relevé à vos côtés, il y a un grand problème de communication au niveau du FRAC et de l'ANC aujourd'hui, ce qui donne un argument sans doute assez léger à cette communauté internationale qui fait semblant de ne rien voir. Et à chaque fois qu'on les rencontre dans les officines, vous disent qu'il y a un accord, il y a des crispations parce que Gilchrist est aujourd'hui avec le pouvoir. C'est pour cela qu'à mon humble avis, le problème togolais aujourd'hui dépasse les contingences politiques. Et c'est le Togo de demain qui est... Donc les Togolais de demain qui sont à penser et à repenser, parce qu'en 50 ans de règne d'une seule famille, d'un seul clan, vous savez que les gens sont assez fomentés et psychologiquement, les intellectuels, les Togolais ont tous se poser la question aujourd'hui de savoir quel citoyen veut pour le Togo de demain, comme RPT en a fabriqué, ou bien veut des citoyens qui sont fiers de leur pays, des citoyens qui sont forts. C'est là toute la problématique même de la crise au Togo. Et quand vous posez la question de savoir si c'est un État dictatorial ou pas, c'est un État dictatorial et autocratique où la force, la répression, la torture est de mise. Les suffrages du peuple togolais ont s'assez copieusement là-dessus pour installer le prince et ses acolytes. Aujourd'hui, en 50 ans de pouvoir d'une seule famille, on ne peut pas parler de démocratie, nulle part au monde. C'est peut-être une monarchie. Et pour la question de la communauté internationale, personne n'attend aujourd'hui que l'Occident vienne construire le Togo. Je l'ai dit dans mon dernier intervention la semaine dernière. On veut tout simplement que la communauté internationale ne soit pas cette béquille assez forte sur laquelle le régime s'appuie. La communauté internationale reste au milieu, joue sa partition, ne cautionne pas ouvertement Faure Gnassingbé. Personne n'attend rien de cette communauté internationale aujourd'hui. On n'a pas besoin de la France, des États-Unis pour construire le Togo. Il va falloir que toutes les firmes économiques, toute cette mafia économique qui régente aujourd'hui le pays, que cette communauté internationale ne soit pas dans ce business-là, et pour qu'on puisse redistribuer les cartes tout simplement. C'est pour cela que la solution de la transition est très fondamentale, parce que le problème togolais est assez important. Le Togo est dans l'abîme, nous sommes dans un trou et on n'a pas d'autre choix. Le seul choix, c'est de remonter. Et pour remonter, il va falloir qu'on repense carrément ce pays. Et on n'a rien aujourd'hui. Quand les gens veulent faire cette comparaison avec le Sénégal, parce qu'il y a également de la tension là-bas. Aujourd'hui, le Sénégal, sur le plan démocratique, sur le plan organisationnel, sur le plan structurel, que ce soit au niveau de la société civile ou des partis de l'opposition, ça n'a rien à voir. J'ai entendu l'intervention du ministre Cheikh Tidiane Gadio Santo, qui disait fondamentalement que dès qu'on met la famille et l'État ensemble, c'est bonjour les dégâts, et c'est justement ce qui arrive aujourd'hui au Togo, parce que la famille et l'État sont combinés. C'est les Gnassingbé, c'est les amis des Gnassingbé,
bien sûr, Fabi.
Et on ne s'en sort pas.
On a bien compris, Fabi. Il faut repenser donc le Togo. Suite du dossier dans quelques instants. On marque une pause.
Africa,
le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Suite du grand débat de l'actualité africaine. Aujourd'hui, le Togo, tensions sociales et répression. Nous en parlons, c'est le dossier togolais aujourd'hui, une édition spéciale pour comprendre un peu les enjeux et surtout la situation dans ce pays. Commentaire de Jean-Claude Chikaya.
Oui, je voudrais revenir, en tout cas vous poser deux questions qui reviennent très souvent sur le net et dans beaucoup de commentaires, notamment dans les pays qui sont en pleine mutation ou qui ont carrément fait leur révolution, c'est la parole des jeunes qui ont, ce qu'on pourrait dire, servi de locomotive et ne veulent pas se faire confisquer cette révolution et l'évolution politique et économique du pays. Tout à l'heure, on parlait de repenser le Togo. Ils ne veulent pas justement qu'on repense leur pays, quel que soit leur pays, sans justement leur participation. Donc il y a une alliance et je pense que ça participe au rapport de force, sans vouloir conférer comme vertu béate à la jeunesse toutes les vertus en termes de vision lumineuse. On sait bien, tout à l'heure on parlait de combats qui ont plusieurs décennies, ça a été souligné tout à l'heure par monsieur Maïzo et autres, sur tous les enjeux, tous les champs qui sont occupés justement pour changer et inverser cette tendance. Donc comment vous, dans votre parti, sans vouloir parler de casting, il faudrait un jeune, une femme et une personne moins jeune, mais comment vous prenez justement tous ces jeunes qui ne veulent pas seulement servir de locomotive ou même de chair à canon dans les rues de Lomé ou ailleurs, et qui veulent participer justement à la mutation de ce pays politiquement, intellectuellement, culturellement, et le 21e siècle en fait ne peut pas faire fi de cette donnée. Comment vous faites?
Réponse de Sénen Kodjo, conseiller à la Fédération internationale de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement.
Oui, évidemment. Mon analyse de la situation, dans mon analyse, je compare tout de suite ce qui se passe en ce moment sur les campus du Togo au soulèvement d'octobre 90. Évidemment, tout cela, toute notre révolution démocratique, même si elle n'a pas abouti à l'heure actuelle,
sombre moment pour le Togo,
a commencé avec un soulèvement des étudiants. Et donc, nous sommes au début d'un nouveau cycle. C'est comme ça que j'analyse la chose. Et donc, évidemment, les responsables du FRAC sont très attentifs à ces mouvements et, comment dirais-je, ils essaient de coordonner et d'entendre ces jeunes et d'accompagner leurs revendications. Après tout, les revendications même sont tellement terre à terre. On en a parlé, on en reparle chaque fois. Est-ce que quand les étudiants demandent plus de bus de transport, c'est pas extraordinaire? De l'eau courante dans les cités universitaires, c'est pas extraordinaire? Des amphis, une connexion internet. À propos d'internet d'ailleurs, on dirait que le régime est littéralement vicieux parce que nous en faisons tous l'expérience, nous qui habitons à l'étranger. Le Togo est l'un des pays où la communication est le plus cher. De là à dire que le régime ne fait pas exprès d'obtenir de mauvais accords pour empêcher justement le citoyen de se connecter correctement.
C'est ce que disait tout à l'heure un peu Yves Kouamaïzo, voilà. Hein, qui disait donc, même beaucoup d'ailleurs.
Voilà, donc c'est un peu ça. Et on sait bien que la sortie sur internet, sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux médias joue une partition importante dans les soulèvements, notamment au Maghreb et en Égypte, etc. Donc le régime fondamentalement essaie d'endiguer la contestation en rendant difficile les connexions internet. Or, pour leur éducation, pour leurs cours, pour leurs recherches, les étudiants ont besoin de connexion internet.
C'est le lien que faisait Yves Kouai entre l'économie et la répression militaire, par exemple.
On ne peut pas étudier sans internet. Les médecins ne peuvent pas travailler sans internet. Aucun spécialiste digne de ce nom, même quand il est en Afrique, ne peut pas travailler sans internet. C'est impossible. Donc voilà.
Et un régime, enfin une autocratie, part du principe que un peuple démuni est forcément un peuple faible.
Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait.
Antoine Baba. Antoine Baba, président de la Fédération internationale de l'ANC.
J'ajouterais, parce que je partage entièrement ce que Sénène vient de dire. Nous sommes dans un cycle, 1990, 2010, 2011, on est dans un cycle. Et tout mouvement sérieux ne peut prendre que à partir de cette démarche-là. Bon. La deuxième chose que je voulais dire, vous connaissez la phrase célèbre de Stendhal, il dit qu'on ne peut pas empêcher un rossignol de chanter en été, au printemps. C'est vrai. Et
ils chantent aussi en été.
Ils chantent aussi en été. Oui. Tout ça pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, d'abord dans le monde, on l'a vu avec la Tunisie et l'Égypte, on le voit avec le Sénégal, on le voit avec le Togo, mais avec moins de médiatisation. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas seulement de notre faute.
C'est pas seulement de votre faute. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Fabi Kouassi souligne quand même les carences en matière de communication de l'opposition.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'en profite pour remercier Africa numéro 1, hein, qui véritablement nous fait l'honneur de nous inviter. Et donc, ça commence à prendre. Alors,
c'est normal, c'est notre devoir.
Hein, très bien. Très bien. Alors, donc, ce que je souhaiterais dire très simplement, c'est que quand on parle de rapport de force, mais c'est tout à fait juste, c'est naturel, mais le rapport de force, nous sommes en train de le chercher. Nous le cherchons, tous les responsables qui sont au pays, de l'ANC, du FRAC, ne parlent que de ça. Mais ça ne se décrète pas un rapport de force, c'est un travail de fourmi, un travail de longue haleine, de terrain. Et c'est ce genre de travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes au niveau de la diaspora responsables de relayer l'information à l'extérieur. Nous sommes responsables de mobiliser les compétences, les ressources de la diaspora togolaise en faveur de ce qui se passe chez nous. C'est ce que nous faisons comme travail et malheureusement, bon, nous le faisons avec les moyens que vous connaissez.
Bien sûr.
Mais évidemment, ces moyens, dans certains cas, sont très importants puisque nous contribuons à l'économie du Togo, à la survie des populations que nous connaissons. Nous avons nos parents là-bas. Et donc, alors tout ça, en résumé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un début de quelque chose. Et même si ça fait très longtemps que nous sommes dans la lutte, mais ma foi, c'est encore un début de quelque chose.
Tout ça ici.
Oui, tout à l'heure, lorsque notre consoeur Kouassi parlait, elle a évoqué deux points qui sont importants pour moi, à savoir la limitation du nombre de mandats et le scrutin à deux tours. Je crois savoir que pour arriver à ces réformes qui sont quand même constitutionnelles, il faut au Parlement togolais un certain nombre de majorités. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si l'alliance de Gilles Christ-Olympe avec le RPT pouvait permettre d'arriver à ces réformes, ce serait bien. Parce qu'en matière de rapport de force, moi, les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs cauchemardesques. On sait que, par exemple, que l'armée togolaise est majoritairement forte des gens de Yassimbe et que chaque fois que les gens se retrouvent dans la rue, on les massacre. Ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter pour le Togo. Mais c'est arrivé justement à voir de ces réformes. Moi, je voudrais que l'opposition togolaise mise au moins sur ces deux réformes-là qui sont importantes, à savoir qu'il faudra absolument limiter le nombre de mandats. Il ne faudrait pas qu'il y ait des membres se perpétuent au pouvoir. Si on arrive à faire cette mesure importante, il faudrait aussi qu'on arrive à un scrutin à deux tout pour permettre à l'opposition quand même de s'organiser et de pouvoir faire des accords pour le permettront quand même de renverser le pouvoir. Et je voudrais justement savoir, est-ce que je viens d'apprendre qu'il y avait un délai de 6 mois que Gilles Christ-Olympe avait accordé au pouvoir, et les 6 mois sont évidemment passés, et on a assisté plutôt à des exclusions des députés et autre chose. Évidemment, si au bout de 6 mois, il y a des membres fils n'a pas respecté ses paroles, on peut dire effectivement à partir de là qu'il commence par avoir trahison. Maintenant, est-ce que par rapport à ces points, vous qui suivez bien l'actualité au Togo, est-ce qu'il y a même des débuts de négociations, bien de réformes qui ont commencé sur ces deux points, à savoir la limitation du nombre de mandats et le scrutin à deux tours?
Une préoccupation, vous avez remarqué, récurrente de Doucis. Hein. Et réponse très rapide, Antoine Bawa.
Tu
as posé deux questions très claires.
Oui, absolument. Hein. Oui. Absolument. Donc, ce qui a été demandé, ce que Olympio a promis à la population par un communiqué d'une page, c'est qu'effectivement, au bout de 6 mois, les réformes, un certain nombre de réformes seraient faites. Entre autres, les réformes dont vous venez de parler. Malheureusement, nous sommes un an après. Ce que nous avons vu, c'est deux communiqués, d'une page chacune, qui à chaque fois se félicitent la coopération, la lune de miel entre le RPT et M. Olympio. Et aux réformes qu'il avait promises, il n'en parle pas. Bon, donc voilà un problème très 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 sérieux. Moi, j'ai vu et beaucoup de gens l'ont vu également.
Il n'y avait pas de proposition de loi à l'Assemblée par ses députés.
Non, puisque vous savez la situation togolaise il faut vraiment la connaître de l'intérieur pour comprendre que une fois que vous avez accepté de collaborer avec le RPT, eh bien, ma foi, le RPT vous mange, tout simplement.
On a vu ça par le passé avec d'autres.
Hein. Voilà.
Oui. On a vu ça avec d'autres, notamment avec le premier ministre, vous vous souvenez, en 93, hein, qui pensait qu'évidemment, le Togo allait vers des lendemains qui... un chanteur, comme M. Kofigo, qui a été délogé donc par, par les chars et la soldatesque du régime. Voilà. On écoute quelques auditeurs qui nous appellent. Monsieur Michel, merci de votre patience, bonjour.
Bonjour Francis,
Nous vous écoutons.
Ça va?
Oui.
Bon, moi ce que je veux dire, c'est que moi je suis togolais comme les invités que vous avez, les gens qui sont sur le plateau. Oui. Mais moi je veux dire aujourd'hui que moi je reviens de Lomé il y a 2 semaines, les gens veulent vivre. Il faut qu'on arrête toujours les mêmes histoires là. Parce que aujourd'hui au Togo, la faute, moi je vais dire, la faute c'est aux opposants, parce qu'ils ne s'attendent pas. S'ils s'attendaient, je pense qu'il faut faire changer les choses. Il ne faut pas venir s'asseoir pour parler, dire la même chose. Surtout depuis des années qu'on entend la même chose. Aujourd'hui, la population est fatiguée. La population est fatiguée de soi-disant politiciens. On en a un peu marre de ça. On a vécu, c'est vrai, au temps du président Yadema. Yadema, quand il est venu au pouvoir, il a pris quoi? Il a pris les sudistes. Il faut que les gens, on se dise la vérité. Il ne faut pas qu'on vienne dans une radio qui est écoutée dans le monde entier pour accorder n'importe quoi. Il faut que les opposants disent la vérité. Les mêmes opposants là qui vont aller voir le président avant, la nuit. Alors il faut qu'on arrête. Maintenant, ce que les Togolais veulent, c'est que le Togo avance. C'est tout simplement ce qu'on veut. Il ne faut pas que les opposants, soi-disant, tout le monde se lève aujourd'hui, il est opposant. Non, il faut qu'on arrête ça. Et moi, ce que je demande à la radio, c'est que aujourd'hui là, dans un pays, quand même, dit opposition, l'opposition doit comprendre aussi qu'il doit faire quelque chose pour le peuple. Aujourd'hui, là, moi, je pose la question à des gens qui sont sur le plateau, que ce soit l'UFC, le parti de Jésus Olympio, ou les partis politiques, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, à part RPT, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, tout le monde était dans les RPT. Il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans l'opposition. On ne sait pas ce que vous allez faire aux hôpitaux. Vous-même, vous faites des choses à la population, vous ne faites rien.
D'accord, Michel. Michel, ils vont me répondre dans quelques instants. Merci, hein, parce que la communication se dégrade un peu. Restez avec nous, Michel. Ils vous répondront tout à l'heure. Ils auront tout le temps de le faire. On écoute maintenant Monsieur Thomas. Monsieur Thomas Conga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Francis.
Nous vous écoutons.
Ouais, je suis pas togolais, je suis congolais. J'ai suivi l'émission depuis longtemps.
Oui.
J'ai une question à poser aux Africains. C'est que les gens doivent rester tout le temps.
Parlez vraiment tout près de votre combiné parce qu'on n'entend pas bien.
Ouais, j'ai le téléphone à l'oreille.
Ah oui, ben oui. On vous écoute.
Ouais. Ma question est celle-ci. Pourquoi les dirigeants africains ne font pas comme en Europe, que le mandat présidentiel se limite à deux. Au lieu de faire 30 ans, 40 ans de pouvoir, on voit que c'est pour ça qu'il y a tout le temps, il y a toutes les manifestations, il y a Le peuple en a marre pour le moment. Pourquoi ils ne font pas le mandat à deux?
Ben oui, mais ça, évidemment, c'est la grande question, évidemment. Ce serait là le meilleur des mondes possibles. Thomas Conga, restez avec nous. On va écouter Sénène Kodjo. Alors, vous avez été là, apostrophé par Michel, hein, Michel qui est désabusé.
Tout à fait. Pour répondre à Michel, je dirais que on ne sort pas indemne de 40 ans de dictature qui, par le système d'éducation, par le système social, atomise une population tout entière. Et notre lutte est longue et difficile. Et je comprends bien que Michel en soit désabusé. Mais la lutte que nous menons, nous en tout cas, au FRAC et à la ANC, même si nous n'en voyons pas encore le bout, nous savons que nous posons des actes responsables pour l'avenir du pays. C'est ça le plus important.
La question, c'est pourquoi devrait-on vous faire confiance davantage aujourd'hui qu'hier?
On devrait nous faire davantage confiance parce que Michel lui-même est confronté quotidiennement à la dictature au Togo. Il lui suffit d'aller renouveler son passeport, d'aller chercher un acte d'état civil, de tomber malade à Lomé ou d'inscrire son enfant à l'université. Alors, il nous rejoindra.
On reprend le débat dans quelques instants. J'entends la petite musique que m'envoie dans l'oreille Jérôme Jérôme, dans quelques instants, on se retrouve pour la suite et fin du Grand Débat. Restez avec nous.
Africa.
Le Grand Débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Africa numéro 1.
Suite et fin du Grand Débat consacré essentiellement aujourd'hui aux tensions sociales au Togo. Nous reviendrons demain sur la situation en Tunisie et nous en parlerons largement dans l'édition de demain, l'édition du Grand Débat. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 20h donc avec Antoine Bawa, Sénène Kodjo, Fabi Kwasi depuis Lomé et Yves Ekwe Amaizo depuis Vienne. Yves Ekwe Amaizo, alors vous organisez, enfin je ne sais pas si c'est vous qui l'organisez, en tout cas il y a un colloque qui se tient à Lille les 2 et 3 juillet prochains et avec cet intitulé « Le Togo prospère et libre existera-t-il un jour ?» Vous avez la réponse.
En fait, c'est Dr Amouzou qui est notre coordinateur du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Nous avons un Conseil mondial, c'est le deuxième congrès d'ailleurs, où l'ensemble des Togolais qui le souhaitent viennent participer, toutes parties confondues, toutes ethnies confondues, pour discuter des problèmes du Togo. Trois thèmes ont été choisis cette réunion. Togo libre et prospère, passé, présent, futur, et comment? Justement, tout le problème de la jeunesse va rentrer en jeu, les universités, etc., la santé. Deuxième élément très important, la diaspora elle-même, comment elle est organisée vis-à-vis, bien sûr, du Togo. Mmh. Je vous rappelle que nous avons envoyé plus de 350 millions de dollars l'année passée, alors que le gouvernement togolais refuse de recenser la diaspora. Mmh. Et c'est donc un thème sur la diaspora par Kofi Alouda. Et le troisième élément, M. Eklou Daté, qui est un docteur d'ailleurs, et qui va nous traiter de tout le problème en général qui se passe, les liens entre la diaspora, cette jeunesse, de manière générale, son point de vue sur cette diaspora-là. Mmh. Donc, vous voyez, donc nous introduisons, et puis il y a beaucoup de débats, il y aurait des élections pour bien sûr choisir les bureaux. Mmh. Nous essayons de montrer qu'on peut, à petit niveau, avec les moyens du bord, les cotisations, faire en sorte qu'on puisse aussi organiser cette diaspora. Il s'agit d'organisation 2-3 juillet à Lille, cmdttogo.org pour le site.
Mmh. Très bien, Yoko Amaizo, donc vous y serez présent évidemment.
Bien, oui, absolument.
Vous bien sûr. Aussi, nous aussi, d'ailleurs.
Ah, vous aussi, vous.
Je peux commenter ce qui a été dit par vos auditeurs.
Mais d'autant que c'est le moment de faire la conclusion, mon cher Yves.
Je vais en profiter aussi. Alors, l'auditeur a entièrement raison de dire que le Togo veut progresser, que les populations en ont marre, et que vraiment, il met un peu la faute sur les partis d'opposition et autres. Ce sont des constats. Il faut que ce Togolais se dise lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour faire avancer le Togo? C'est très important.
C'est ça.
Nous devons tous contribuer à faire quelque chose pour ce Togo. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour soutenir la marche des gens qui, depuis longtemps, s'opposent à cette absence de démocratie, cette absence de vérité des urnes, cette absence et ce rôle des militaires? Donc, il faut que lui-même fasse un peu amende honorable en voyant que nous sommes tous un peu fautifs dans cette histoire-là. Mmh, ça, c'est la première chose. Deux, il ne faut pas le faire sans une organisation collective. Le système RPT AGO, tel qu'il est aujourd'hui, est une segmentation des contre-pouvoirs. Mmh. Il s'agit de que tous les contre-pouvoirs soient segmentés, ne travaillent pas ensemble. Mmh. On a même, comme ministre, un ancien syndicaliste. Pour ne pas lui faire la honte, je ne dis pas son nom, mais tous les Togolais le savent. Mmh. Alors, vous parlez de démocratie, de limiter les termes à deux tours, mais vous savez que le peuple togolais, 1992, c'est pas d'aujourd'hui. Nous avons une constitution qui est impeccable, il suffit de le mettre en œuvre. Elle a été tordue, rechangée, détourné, vu à l'envers, et remis à jour, et aujourd'hui on nous parle de deux tours. Non, le Togo, le peuple togolais en 92 a déjà décidé de bloquer tout à deux mandats.
Il suffit donc de respecter.
Nous ne respectons rien, il n'y a aucune discipline. D'où ce que je vous dis, ce gouvernement ne respecte jamais sa parole. Mmh. Alors, qu'est-ce qui est très important? Vous avez parlé du futur. Il faut une sortie du crise. Sincèrement, je demande à tous ces interlocuteurs de faire un effort sur eux-mêmes, d'arrêter le nombrilisme et d'aller vers une situation, un papier de sortie de crise. Mmh. Nous avons proposé une mouture de base en tant que collectif pour la vérité des urnes, qui le prenne, qui se l'approprie, qui en fasse ce qu'il veut et qui fasse une proposition. Aucune communauté internationale, quelle qu'elle soit, ne peut baser un changement, une alternative, s'ils ne viennent pas ensemble pour avancer. Alors maintenant, pour le point très concret, pour répondre à votre auditeur.
Vraiment, en 30 secondes, mon cher Yves.
Oui, 30 secondes. C'est-à-dire que je ne comprends toujours pas pourquoi on ne peut pas prendre l'argent qui sort du port du Togo pour le donner directement pour résoudre un problème des étudiants universitaires. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas l'argent de la douane ou de la fiscalité togolaise qui est augmentée pour donner directement aux médecins. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'État togolais est défaillant. Et l'État togolais comme intermédiaire ne fait pas son travail pour recycler les impôts ou ce qu'il prend comme recette vers les populations. Oui. Donc les populations s'en prennent aux partis d'opposition, aux partis des individus. Mais en réalité, c'est cet État qui est un problème. Et donc soit on le contourne, soit on trouve un moyen de faire qu'il ne vienne plus à travers la corruption empêcher que le peuple profite des recettes togolaises, parce que le Togo est riche.
Très bien, mon cher Yves Kouamaïso. Donc, je rappelle, vous êtes économiste, coordinateur international de la plateforme Comité pour la vérité des urnes. Vous êtes consultant, directeur du groupe de réflexion Afrologie, de réflexion et d'action Afrologie. Et votre dernier ouvrage paru, Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique aux éditions Ménébuc. Merci d'avoir été avec nous, Yves Kouamaïso. On vous retrouvera certainement sur les antennes d'Africa numéro 1 très prochainement. Hein.
C'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment. Alors, j'ai une information qui m'arrive à l'instant sur l'écran. Christine Lagarde vient donc d'être nommée directrice générale du FMI. On s'y attendait un peu. Voilà, c'est confirmé. Fabi Kouassi, une conclusion, s'il vous plaît.
Oui, j'aimerais juste dire à Michel qui soutenait tantôt qu'il était venu à Lomé il y a seulement 2 semaines et que les Togolais veulent vivre, mais je crois qu'il a constaté que les Togolais ne vivent pas, que c'est difficilement qu'ils arrivent à trouver les 3 repas par jour. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui sont proches du sérail de Fornia Simbé et de sa bande, et ce serait bien qu'ils rejoignent ceux qui n'arrivent pas à vivre pour voir comment revoir le Togo de demain. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas l'opposition qui est le problème. L'opposition manque de structure, l'opposition a des manquements, l'opposition a des problèmes, ne s'organise pas, c'est vrai, mais ce n'est pas l'opposition qui est le problème. Vous êtes en face d'un pouvoir qui a opté pour les solutions extrêmes tout de suite. On sort la force, un pouvoir qui a nul autre pareil, qui veut s'éterniser au pouvoir contre vents et marées, malgré les accords, malgré les dialogues. En tout cas, la logique, c'est de s'éterniser au pouvoir. Encore quelques jours seulement, le préfet du Golfe a réitéré que la répression est un facteur de la démocratie, ce qui peut faire rêver même les morts. Pour dire que c'est une vision toujours patrimoniale du pays que le clan Yassoumbé a du Togo, avec une armée familiale et clanique. Et pour ce qui est de la préoccupation de M. Tshisekedi, si je me trompe, par rapport à cette réforme constitutionnelle,
non, c'était M. Doussissa ici.
Un peu comme au Sénégal, malheureusement, Fornia Simbé n'a pas reculé comme à Blain Ouad. On veut toucher à la Constitution pour faire de Fornia Simbé le président du Conseil de la magistrature suprême dans un pays où la justice est déjà aux bottes du pouvoir. Et c'est pour cela que l'opposition manifeste tous les jeudis. C'est pour cela qu'on sort tout de suite la grosse tuerie, à savoir Grenoble lacrymogène et Bâle Blanche. Donc c'est ce que j'aimerais dire
conclure. Merci beaucoup, Fabi. Hein. Et la liste dégradée un peu, mais on a bien compris ce que vous disiez. Je rappelle, donc, vous êtes correspondante de la BBC à Lomé et journaliste, évidemment. Merci, ma chère consoeur. Hein. Bonne soirée à Lomé. Merci infiniment. Alors, aux auditeurs que je ne pouvais pas faire passer à l'antenne parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On va peut-être écouter Monsieur Franck. Hein. Monsieur Franck, bonjour. Ah, Franck a raccroché. Octave, peut-être, rapidement.
Oui, je vous écoute.
Ah ben c'est nous qui vous écoutons.
Oui, Octave en ligne. Je remercie tout le plateau.
Non mais allez-y rapidement parce qu'on a juste une minute pour vous.
Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut que chaque Togolais essaie de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour le changement? Il ne suffit pas de critiquer la machine RVT chaque jour et on ne trouve pas de solution. Il faut chercher où se trouve le problème idéal pour le changement. Celui qui vient de me précéder, il dit les Togolais n'ont pas les 3 repas par jour. Si on leur demande chaque jour de sortir, de marcher dans la rue, il faut travailler avant de manger. Il faut pas détourner la mentalité de la jeunesse contre la machine RPT. Si la machine RPT est dure, comment renverser cette machine RPT, ce que l'opposition doit faire. Si l'opposition est incapable d'apporter un changement dans le pays, qu'elle s'arrête là.
En conclusion, merci beaucoup, monsieur Octave, merci. Alors, on va faire rapidement un tour de table. Hein. Il nous reste 3 minutes seulement d'antenne. On va commencer par vous, Antoine Bawa, pour une conclusion. Monsieur le Président, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Je voulais simplement revenir très rapidement sur Michel a dit à propos des opposants qui vont au palais Yadema et Fornia Simbé pour recevoir de l'argent, etc. Les gens qui aujourd'hui mènent la lutte au sein du FRAC et de l'ANC, c'est des gens qui luttent depuis de longues années et ne sont jamais allés au palais pour revendiquer quoi que ce soit. Ça, c'est la première. C'est une insulte hein, que je veux relever. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, Ce que Yves Ekwe-Amaizo a dit tout à l'heure, ce que Sénène a dit, ce que Fabi dit du Togo, mais c'est ça que nous voulons. Mmh. C'est-à-dire trouver le rapport de force en faveur de l'opposition démocratique, politique, mais aussi la société civile. Mmh. C'est ça tout notre travail.
Est-ce qu'on peut considérer que Antoine Bawa a parlé pour deux? Voilà, Sénène Kodjo rapidement. On peut dire ça?
Oui, on peut dire ça. Oui. En conclusion, je dirais que tout tourne autour de l'état de droit. Mmh. Au Togo, nous n'avons pas d'état de droit. Séparation des pouvoirs, institutions démocratiques. Nous avons une constitution, celle de 92, comme le disait tantôt Monsieur Amaizo. Il nous faut juste la respecter. Mmh. Et ce n'est qu'un minimum. Mmh. On n'en demande pas plus.
Et puis il faut aussi souhaiter que le monde entier s'intéresse un peu plus aussi à ce qui se passe au Togo, parce qu'on a l'impression depuis quelques mois, quand même depuis quelques temps, que c'est une sorte comme ça, un peu de tragédie, hein, avec les nuances nécessaires, un peu à huis clos. Hein, y a une sorte d'indifférence comme ça de la communauté internationale à l'égard du Togo, comme s'il y avait comme ça soit une sorte, je dirais, d'indifférence, en tout cas, ou de fatigue tout simplement, hein, parce que c'est une crise qui dure depuis très très longtemps, une sorte de crise sans fin comme ça, mais il n'existe pas de crise sans fin, évidemment. Il y a forcément une issue et toute histoire a forcément un épilogue. Bonne chance, messieurs. Merci d'être venus.
Merci.
Et bonne chance au Togo, surtout. Hein.
Merci à vous.
Bonne chance au Togo. Merci à tous. Merci à vous, Antoine Bawa. Merci à Sénène Kodjo. Merci à Fabi Kouassi depuis Lomé. À Yves Ekwe-Amaizo depuis Vienne. Merci aux débatteurs polémistes du jour, Doucis Aïssi, Jean-Claude Tchikaya. Merci à tous ceux qui m'aident, évidemment, à fabriquer l'émission chaque jour. Stéphanie Hartmann, assistante de production, Guy Calenda, Maxime Salin, Aïtana Badiane, notre talentueuse stagiaire. L'émission a été réalisée, comme chaque jour, par Jérôme DJ Giliberto. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Dans quelques instants, cap sur Libreville pour écouter le journal qui sera présenté par notre ami Louis-Claude Mounziou Koumba. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. Prenez soin de vous.
Le Grand Débat avec Francis Laloupo.